Aircal avance dans la préparation du déménagement de ses activités. Une marche à blanc est organisée dans le nouveau hall d'enregistrement de la Tontouta. L'ADEC prépare un plan social. 75 personnes seraient concernées. Le dossier est à la direction du travail. Activités multiples et ludiques pour les enfants et leurs familles à l'hippodrome Henri Millard. Un été à Nouméa a débuté ce matin. En métropole, la menace de dissolution en cas de chute du gouvernement semble faire de l'effet. Le Parti socialiste ne devrait pas voter les motions de censure. Le Rassemblement national fait lui bloc derrière Marine Le Pen. Le procès en appel de la chef de file des députés RN s'ouvre la nuit prochaine pour nous. En Iran, les manifestations contre le régime des mollahs réprimées dans le sang par le régime. Il y aurait déjà plus de 640 morts. Et puis en football, grosse surprise ce matin en 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG tenant du titre a été sorti par le Paris FC. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Bodin.
Avec un citoyen, honneur à Miss Nouvelle-Calédonie, devenue la première dauphine de Miss France.
Et oui, elle est arrivée hier matin à 7h à la Tontouta, accueillie comme il se doit, c'est-à-dire comme une star. Juliette Collet, donc de retour en Nouvelle-Calédonie. Elle sera déjà dans nos studios ce midi pour revenir sur son parcours, sur cette fonction aussi de première dauphine de Miss France, comment elle va passer sa prochaine année, quelles seront ses grandes causes qu'elle va défendre. Et puis pour parler de l'univers des Miss, sur son passage sur scène. On va recevoir également le directeur artistique Bruno Fortin et la vice-présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, Stéphanie Lemaître. Bref, les strass et les paillettes, c'est après votre journal.
Et avant de développer tous les titres et de retrouver en fin de journal le magazine Citoyen, un mot sur la préparation de la rencontre à Paris entre les délégations politiques et le président de la République. Rendez-vous prévu vendredi à 16h, heure de métropole à Paris. Le FLNKS doit annoncer à la suite de la convention qu'il a réunie samedi s'il se rendra ou non à Paris, ce sera en début d'après-midi. L'UNI, lui, honorera le rendez-vous et espère que tous les acteurs concernés seront autour de la table vu les enjeux. C'est ce que nous a dit ce matin l'un des porte-parole de l'UNI, Jean-Pierre Djaïoué.
Parvenir à une solution consensuelle, durable pour la Nouvelle-Calédonie, il est préférable que tout le monde soit autour de la table. Mais tout le monde a été invité. Et si les uns et les autres ne viennent pas autour de la table, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous, notre responsabilité, c'est de parvenir à améliorer l'accord de Bougival, comme l'ont demandé les militants lorsque nous avons fait le tour d'explication dans tout le pays. Et donc on veut porter ces points-là pour l'améliorer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite. Et s'il n'y a pas d'accord, ben il n'y a pas de projet de modification de la loi constitutionnelle. Et si la loi constitutionnelle part adoptée par les parlementaires, compte tenu de l'instabilité qu'il y a au niveau national, si en plus de ça il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ben si tout tombe à l'eau, il n'y a plus d'accord, eh bien la Calédonie va être dans une situation vraiment difficile. Et en ce moment, il faut qu'on arrive à trouver de la stabilité, et pour avoir de la stabilité, il faut un accord politique pour ensuite redresser la Calédonie sur le plan social et économique.
L'essentiel des délégations calédoniennes doit quitter le territoire cette nuit pour nous. Pour l'instant et selon nos informations, la rencontre avec le président de la République doit être suivie par 3 jours de travail en atelier au ministère des Outre-mer.
Radio Rythme Bleu, 11h34.
Dans moins de 2 mois maintenant, Aircal opérera depuis la Tontouta, un projet qui devait voir le jour en fin d'année dernière mais qui a été reporté. Daniel Ombouy, le directeur général d'Air Calédonie, était notre invité ce matin pour revenir sur les actualités de la compagnie domestique et il assure que tout sera prêt après la rentrée scolaire pour ce déménagement.
On est prêt, autant que faire se peut. On s'y prépare de longue date. Ça fait un projet que ça fait un an qu'on a dans les cartons, qu'on travaille à ce déplacement de notre base opérationnelle à la Tontouta. Que la réception des travaux de la salle débarquement et de départ sont prêts, on a vu les travaux. Et nous, nous sommes prêts, nous avons commencé, là, il y a quelques jours, une marche à blanc, c'est-à-dire à opérer avec un avion sur place, les phases d'enregistrement, d'inspection, filtration, départ, arrivée, chargement bagage, déchargement bagage. Le plan social qui nous a beaucoup occupé l'année dernière, en 2025, fait qu'on s'est séparé de 155 collaborateurs, plus d'un tiers de notre personnel. Et ça s'est fait justement dans la perspective d'un déménagement à Tontouta. Donc ça a été intégré déjà et donc il ne devrait pas y avoir de nouveau plan social pour la Tontouta.
Ce projet de déménagement est une étape importante, mais il ne suffira pas à lui seul à rendre la compagnie rentable. Daniel Ombouy en appelle à son actionnaire, la Nouvelle-Calédonie, pour passer l'année 2026 et évoque aussi la vente prochaine d'un ATR aux États-Unis et les contrats passés avec le Vanuatu qui doivent amener de la trésorerie à la compagnie. Cette stratégie globale va permettre à la compagnie de sortir la tête de l'eau, selon Daniel Ombouy, si et seulement si, ajoute-t-il, le trafic redémarre.
le déménagement à Tontouta, ce n'est pas ce qui va sauver Air Calédonie. Ça ne suffira pas. Il y aura d'autres mesures à prendre puisque la situation de la compagnie est sinistrée, donc ça ne suffira pas. Mais c'est sûr que ça donnera des perspectives plus intéressantes pour Air Calédonie quand le trafic reviendra, quand l'activité reviendra. Avec la réduction de la masse salariale, avec la restructuration de nos charges, on a réduit notre seuil de rentabilité. En termes de trafic, on passe d'un seuil de rentabilité de l'ordre de 500 000 passagers pour atteindre cette rentabilité à 300 000 passagers. Nous sommes au mois de janvier, pour toute l'année 2025, on a fait moins de 190 000 passagers. Donc on a baissé encore par rapport à 2024.
Objectif 2026 pour vous, c'est peut-être pas 300 000, même si c'est ce que vous souhaitez, mais au moins remonter la courbe qui a bien chuté ces dernières années.
On s'attend à un redressement de l'activité avec un peu plus de trafic, mais on reste très prudent, on est légèrement supérieur à 200 000 passagers. Contre 190 000 passagers l'année 2025.
Le déménagement suscite toujours la colère de certains usagers des îles qui menacent de bloquer les aérodromes en février, notamment à Lifou. La semaine prochaine, le gouvernement réunira la commission consultative pour la desserte intérieure au sujet notamment des navettes routières entre Nouméa et Tontouta. La centrale à Costé est temporaire de la SLN qui assure temporellement l'équilibre et l'alimentation électrique du territoire. À la suite d'un incident sur le barrage de Yaté, une partie de la production d'électricité est fragilisée, Léana Colombo.
Le week-end dernier, la foudre est en effet tombée sur le poste de Yaté. Cet incident empêche donc temporairement l'évacuation de l'électricité produite par Yaté vers le réseau de la Grande Terre jusqu'à la réparation du composant concerné prévu ce jeudi. Comme lors de chaque aléa technique, Enercal reconfigure le réseau et fait appel aux différents moyens de production disponibles pour maintenir l'alimentation électrique des Calédoniens. Pour compenser, la SLN a donc mobilisé la centrale à Costé, habituellement réservée à l'usine de Doniambo, afin de soutenir directement le réseau public. Résultat, la centrale tourne aujourd'hui à pleine capacité pour garantir la stabilité de l'alimentation électrique, et ce, jusqu'à ce jeudi. Dans un communiqué, la SLN explique que, je cite, « sur un territoire insulaire où le moindre déséquilibre peut avoir des conséquences immédiates, cette solution exceptionnelle permet de sécuriser l'électricité des foyers, des entreprises et des services essentiels. » Fin de citation. Pour rappel, en 2025, la CAT a contribué à moins de 2% de l'alimentation électrique des Calédoniens.
L'actualité sociale avec un plan de licenciement présenté à la Direction du Travail et de l'Emploi par la DEC. 75 employés de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique seraient concernés, Charlotte Coulson.
Des personnels de cantine, des assistantes maternelles, des éducateurs spécialisés. Au total, vous l'avez dit, ce sont 75 personnes qui pourraient être licenciées avant la rentrée prochaine. Le plan concernerait les employés de la DEC. Il exclut donc les enseignants. Pas de grande surprise, on se souvient des nombreux cris d'alarme de la DEC sur sa situation financière. 630 millions de francs, c'était le montant qu'elle disait ne pas avoir reçu des partenaires publics pour son fonctionnement. Après un bras de fer avec les institutions, le gouvernement avait annoncé en fin d'année dernière le versement de 300 millions de francs pour la DEC. Aujourd'hui, la moitié de cette somme serait en cours de versement, l'autre moitié conditionnée à la réalisation d'un audit qui est en train d'être mis en place. Pour autant, la situation financière reste tendue, c'est ce qu'on peut déduire de ce plan de licenciement transmis hier à la Direction du Travail et de l'Emploi. La DEC, contactée par téléphone, indique ne pas souhaiter communiquer avant le retour de la DTE sur ce plan de licenciement. Si le document n'a pas été rendu public, les syndicats, eux, y ont bien sûr eu accès. Ils ont pu rendre leur avis lors d'un comité d'entreprise qui s'est tenu hier. Comme l'explique Hélène Moisson, chargée de communication du SYSTEP, la branche dédiée à l'enseignement privé du SWINC, le syndicat a transmis son avis défavorable.
Depuis un certain temps, on sait que la masse salariale n'est plus en adéquation avec les subventions qui arrivent. Des mesures ont déjà été proposées par l'institution il y a quelques mois de ça, en demandant au personnel de volontairement réduire leurs heures de travail. Sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que à la veille des vacances scolaires, c'est-à-dire le 19 décembre, la DEC nous propose un plan de licenciement. Nous n'avons pas été réellement conviés au dialogue social.
La DEC enverra les premières lettres de convocation aux entretiens préalables au licenciement à partir du 19 janvier.
Pendant cet entretien, les questions abordées seront le reclassement possible, éventuellement, s'il n'y en a pas, l'accompagnement vers la sortie, malheureusement. On aurait aimé pouvoir travailler sur ce plan en amont et accompagner les personnes dignement vers la sortie.
Et du côté des institutions aussi, la méthode interroge. On sait qu'il va y avoir des mesures, mais on ne sait pas lesquelles, nous a dit Gilles Briel, le deuxième vice-président de la province Sud. Car si le personnel de cantine et d'internat est touché par les licenciements, certains établissements isolés n'auraient donc plus accès aux cantines ni aux internats, d'où la nécessité pour les provinces d'avoir un temps d'adaptation. Pour l'instant, ce plan de licenciement n'a pas été officiellement annoncé. Nous en saurons plus dans les jours à venir.
Allez, prenons un peu l'air maintenant avec la ville de Nouméa qui a lancé ce matin un été à Nouméa. C'est un village vacances gratuit, Léo Fichou, installé à l'hippodrome Henri Millard.
Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public était au rendez-vous dès l'ouverture des portes à 9h. Ce matin, les activités proposées par les agents de la ville sont nombreuses. Du cirque, des ateliers de tatouage éphémères, de confection de fleurs, mais aussi un autre dédié aux petits inventeurs. Des sorties sont aussi proposées à la piscine ou bien en randonnée. De quoi satisfaire les envies de tout le monde dans une ambiance conviviale, le partage étant le maître mot de ce village vacances. Adrien Lelevaille est chef du service vie de la cité pour la ville de Nouméa.
C'est un petit peu l'objectif aussi du projet, c'est de créer du lien entre les habitants et les quartiers. Puis là, on voit bien ce matin le métissage qu'il y a des personnes issues de, voilà, de tous les quartiers, de diverses cultures, donc ça a fait plaisir. Donc là, on a pas mal de familles là, qui sont arrivées, que ce soit par leurs propres moyens ou par les navettes qui ont été mis à disposition au départ des quartiers. Et puis voilà, c'est sympa, c'est très familial là, pour un démarrage ce matin.
Et parmi les nombreuses activités que j'ai citées un peu plus tôt, le cirque a attiré beaucoup de monde. Les enfants sont attentifs aux conseils des animateurs, pendant que les parents, eux, profitent du calme.
Il va tomber devant. Allez, on lui sauve la vie.
Oui, bien. Est-ce que tu as compris?
Oui.
Voilà, et on continue.
Pascal, de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie.
Alors là, je suis en train d'apprendre le tourner le réglage du Diabolo. C'est un atelier de jonglage. Eh bien, c'est le début pour mademoiselle, donc voilà, je fais avec elle pour qu'elle puisse sentir les sensations et pouvoir l'aider dans le tournée réglé.
Il redevient droit, j'ai remis des ficelles l'une à côté de l'autre. Que la main qui crie, qui monte et qui descend. Là, voilà.
Quand t'es débutante, ça, c'est pas trop facile, mais après, quand tu continues à faire, ben, ça devient un peu plus facile.
Comment ça se passe le Diabolo pour toi?
Bah, ça va, c'est bien. C'est un peu chiant quand ça s'en mêle, mais sinon ça va.
Nous, on vient de Koumac, du coup, on est en vacances ici, et puis on a regardé un petit peu le programme, et voilà, on a vu sur Internet qu'à l'hippodrome, il y avait des activités. C'est sympa, le concept est sympa. On a rencontré aussi nos amis, donc c'est chouette, le partage.
Un été à Nouméa, c'est donc jusqu'au 6 février à l'hippodrome Henri Millard, et ça se passe du mardi au jeudi de 9h à 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier d'abord est 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne comprennent pas l'évolution du dispositif de sécurisation de la gendarmerie au niveau des verrous de Saint-Louis. Ils sont 25% à le comprendre. Et puis voici notre question du jour. Pensez-vous que le gouvernement de Sébastien Lecornu va être censuré par les députés? Si vous pensez qu'il va l'être, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146, un sujet dont on va reparler dans un instant, juste après la première pause de ce journal, puisque nous évoquons l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
À compter du mardi 20 janvier, la circulation automobile se fera à double sens autour de la place des Cocotiers. Les rues Anatole France et Jean Jaurès pourront désormais être empruntées dans les deux sens.
Pour cela, des travaux de signalisation seront réalisés dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier. En fonction de l'avancée du chantier, des ajustements pourraient s'étaler jusqu'au mercredi 21 janvier.
Les informations pratiques et le nouveau plan de circulation sont disponibles sur le site www.nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour votre sécurité, faites preuve de vigilance et respectez la signalisation mise en place.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et Sébastien Lecornu est donc sous le coup de deux motions de censure. Elles ont été déposées par le Rassemblement national et par la France insoumise pour mettre la pression sur les nouvelles discussions autour du projet de loi de finances, mais aussi pour protester contre l'incapacité de la France à renégocier le Mercosur, l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux d'Amérique latine qui sera finalement signé vendredi prochain. L'exécutif menace à son tour, si les motions de censure devaient être votées, d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et l'argument semble porter Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Les socialistes au plus bas dans les sondages veulent éviter à tout prix une dissolution suivie d'une nouvelle campagne des législatives dans les semaines à venir, surtout que le parti d'Olivier Faure est maintenant en rupture complète avec la France insoumise. Il sera donc très difficile pour eux de justifier une nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour garder leur poste de député. Mais pour autant, les socialistes ne sont pas prêts à accepter n'importe quel budget et attendent d'autres concessions de la part de Sébastien Lecornu, comme le justifie le député Romain Eskenazi.
Si jamais c'est le budget actuel tel qu'il est sorti du Sénat avant les nouveaux débats à l'Assemblée qui est présenté à l'Assemblée nationale avec un 49-3, on censurera le gouvernement.
Il reste très peu de temps à Sébastien Lecornu pour trouver un accord avec les socialistes car les débats reprennent demain à l'Assemblée nationale.
Et de leur côté, les agriculteurs maintiennent la pression à quelques jours de la signature du Mercosur. Ils bloquent depuis cette nuit les ports du Havre, de Bayonne et de La Rochelle. Ils sont installés devant plusieurs préfectures et organisent aussi des barrages sur plusieurs axes routiers sur lesquels ils contrôlent les camions. Dans l'un d'entre eux, sur l'autoroute A1, ils ont par exemple trouvé une cargaison de carcasses de porc en provenance du Danemark destinée à la Bretagne, ce qui a fait vivement réagir cet agriculteur.
C'est incroyable. On voit du porc qu'on peut aller chercher ailleurs dans les pays européens qui sont 20-25 centimes moins chers que nous. Donc c'est tout, on ne peut pas lutter, c'est impossible, on ne peut pas lutter. C'est fini, on est mort. Je viens de m'installer, je vois ça, je suis écœuré, je vais me tuer.
Et la nuit prochaine, pour nous, les agriculteurs entendent installer des tracteurs place de la Concorde à Paris. Le soutien de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, à Marine Le Pen. C'est la nuit prochaine pour nous que doit s'ouvrir le procès en appel de la chef de file des députés Rassemblement national. Dans cette affaire dite des assistants parlementaires européens du Front National, Marine Le Pen avait été condamnée, vous le savez, en première instance à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Une inéligibilité qui, si elle était confirmée en appel, la priverait de scrutin présidentiel. En attendant, en présentant ses vœux à la presse, Jordan Bardella a martelé son soutien à Marine Le Pen, Maïlène Trémollet.
Devant Marine Le Pen, assise aux côtés de leur allié UDR, Éric Ciotti, Jordan Bardella réaffirme son amitié totale à sa patronne.
Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence.
Marine Le Pen qui martèle qu'elle sera présente aux audiences et qu'elle se pliera au calendrier judiciaire malgré la reprise des travaux sur le budget à l'Assemblée nationale dès demain.
Je vais essayer d'être présente le plus souvent possible devant la cour d'appel et ça se fera évidemment au détriment de ma présence à l'Assemblée nationale. Et il est difficile de faire autrement parce que je n'ai pas le don d'ubiquité. J'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence.
Pas question en revanche de faire de ce procès l'actualité majeure du parti dans les prochains mois, bien au contraire, en pleine campagne des municipales, la chef de file des députés RN programme plusieurs déplacements et ce dès vendredi où elle est attendue à Marseille aux côtés du candidat RN Franck Alizio.
Mais toujours dans l'actualité en métropole, l'assassinat d'Alain Orsoni dans des conditions dramatiques. Il a été abattu d'une balle pendant les obsèques de sa maman. Alain Orsoni, ancien cadre du FLNC, le Front de Libération de la Corse, dont il a été le président, avait 71 ans. Il avait quitté le mouvement nationaliste depuis 13 ans en raison des guerres internes. Il avait aussi présidé le club d'Ajaccio. Sa mort s'ajoute à la liste des assassinats commis dans la mouvance indépendantiste corse depuis plusieurs années. L'enquête a été confiée au tout nouveau parquet national anticriminalité organisée. Et on en vient à l'actualité à l'étranger avec un 13e jour de manifestation contre le régime des mollahs en Iran. Des manifestations réprimées dans la violence par le régime qui a déployé en certains endroits les gardiens de la révolution. Selon l'ONG Human Rights, 648 personnes ont été tuées depuis le début des émeutes, dont des enfants. Et les dirigeants de la République islamique avaient appelé cette nuit ses partisans à descendre à son tour dans la rue. Caroline Baudry pour Europe 1.
La télévision d'État montre des milliers d'Iraniens place de la Révolution au cœur de Téhéran. La foule prie, scande « Mort aux États-Unis ». C'est un avertissement, a déclaré le guide suprême dans la foulée, alors que Donald Trump a maintenu la pression sur Téhéran la nuit dernière à bord de son avion présidentiel.
Il semble que des personnes aient été tuées injustement par des dirigeants qui ne gouvernent que par la violence. Mais nous regardons cela de près, l'armée suit cela de près, et nous étudions des options très fortes.
Des options très fortes que les hauts responsables de l'administration américaine doivent présenter demain au chef d'État. Selon The Wall Street Journal, plusieurs pistes sont à l'étude. Nouvelles sanctions économiques ou frappes militaires. Face aux menaces, l'Iran se dit prêt à la guerre mais ouvert à la négociation et annonce qu'un canal de communication a été ouvert entre Téhéran et la Maison Blanche.
11h51, la dernière page de ce journal. Ce sera dans un instant l'actualité sportive avec notamment du football et le PSG éliminé en Coupe de France. À tout de suite.
Appréciez un buffet à volonté avec boissons, transat et parasol pour une journée de détente parmi notre équipe de maridés au Phare Amédée. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le sport, c'est d'abord cette grosse surprise en football en 16e de finale de la Coupe de France. Léo Fichou, le PSG éliminé.
Oui, le double tenant du titre et vainqueur à 16 reprises de la compétition s'est incliné 1-0 dans un derby très disputé contre le Paris FC. Une revanche pour les Parisiens qui s'étaient inclinés 2-1 en Ligue 1. C'était le 5 janvier dernier, victoire donc du PSG en Ligue 1 2-1. Victoire du PFC en Coupe de France 1-0. Le seul buteur de la rencontre, c'est Jonathan Hickey. Connaît bourreau de son club formateur. Le Titi parisien a réagi à l'issue de la rencontre.
Je ne peux pas oublier d'où je viens, bien sûr. Ils m'ont tout donné, ils m'ont tout appris, tout donné. Et je suis reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Donc, bien sûr que je ne vais jamais célébrer ici, mais je suis super content de marquer et de faire gagner mon équipe. On a mieux défendu, on a été plus compact. En tout cas, on est fiers de nous. On a super bien défendu, on a su marquer un but et pouvoir gagner.
Une défaite du PSG donc contre le Paris FC 1-0, je le rappelle, qui ouvre donc la porte à de nombreux candidats et notamment l'Olympique de Marseille. Les Marseillais disputeront demain matin le dernier 16e de finale de cette édition de la Coupe de France. Ce sera contre Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Attention donc aux surprises. Coup d'envoi de la rencontre à 7h, heure de Nouméa.
L'actualité du football, c'est aussi la disparition de Roland Courbis. L'ancien joueur puis entraîneur de l'OM notamment est décédé brutalement ce lundi. Les causes de sa mort n'ont pas été communiqué officiellement, mais d'après les premières informations, coach Courbis, comme on l'appelait, aurait succombé à une infection pulmonaire. Il avait 72 ans. Et puis partons sur le Dakar maintenant en Arabie Saoudite avec la 8e étape qui s'est courue cette nuit.
Dans la catégorie moto, d'abord l'Argentin Luciano Benavides a remporté cette 8e étape. Le Français Adrien Van Beveren a terminé 5e. L'Argentin qui s'était déjà imposé sur les 5e et 7e étapes s'empare donc de la première place du classement général. Il possède seulement 10 secondes d'avance sur l'Australien Daniel Sanders. Adrien Van Beveren est 7e. Dans la catégorie auto, victoire du Sud-Africain Saoud Variwa et de son copilote, un Français, François Cazalet. Sébastien Loeb lui a terminé 8e de cette étape. Au classement général, le Qatari Nasser Al-Attiyah est toujours en tête. Sébastien Loeb reste en embuscade à la 6e place.
Merci Léo, il est 11h54, c'est la fin de ce journal.